Vous êtes sur RTL. Oui. Régional 2021.
RTL Midi en direct de Toulon. Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 17 juin, nous faisons étape effectivement à Toulon à 3 jours du premier tour des élections régionales. Toulon, c'est la 3e ville de la région PACA, premier port militaire français. Marine Le Pen fait campagne aujourd'hui dans la région, notamment sur le thème de l'insécurité. Nous verrons comment on lutte ici contre le trafic de drogue et comment on s'occupe des mineurs. Emmanuel Macron, lui, poursuit son tour de France sur les terres de Xavier Bertrand dans la Somme. Dans RTL Midi aussi, discuter, est-ce renoncer à la violence? C'est l'un des sujets du bac philo ce matin. 500 000 candidats ont bûché dans cette épreuve classique et pourtant atypique cette année. Le réquisitoire au vitriol de la procureure dans le dossier du financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012. Il fallait gagner à tout prix, dit-elle. Ici à Toulon, il fait 28 degrés. Le ciel est un peu gris, mais pas d'orage en vue. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Les orages, ce sera une nouvelle fois dans l'Ouest.
Exactement, des orages parfois violents, accompagnés de grêles, de fortes pluies et de vent. 17 départements du Sud-Ouest sont en vigilance orange, orage et puis inondation en plus pour certains. Le Rhône est en vigilance orange canicule et d'ici la fin d'après-midi, ces orages vont gagner les Pays de la Loire et l'Île-de-France. Sur les côtes de la Manche, le temps est nuageux avec juste quelques averses. Ça reste beau à l'est avec une petite averse possible en montagne. Sur le relief des Alpes et de la Corse, le tout sous des températures en baisse à l'ouest et encore très élevées à l'est. De 17 à Cherbourg à 35 à Strasbourg, 24 à Bordeaux et 31 à Paris.
La question du jour sur RTL.fr, fallait-il maintenir l'épreuve de philo au bac? Vous êtes 75% à nous dire oui, à 18% de non. On attend vos arguments, 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, nous avons énormément de sujets, évidemment les sujets de bac. Sommes-nous responsables de l'avenir? Beau sujet, approuvez-vous la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur? Nous sommes à 3 jours des élections régionales. Irez-vous voter? Faut-il interdire le burkini dans les piscines municipales? Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants en EHPAD et pourquoi pas d'ailleurs à tous les Français? Voilà beaucoup de sujets. La lecture également qui doit être une grande cause nationale. Combien de livres lisez-vous chaque année? Puis il y a 35 ans, le 19 juin 86, Coluche nous quittait dans un accident de moto. Vous pourrez réagir là aussi sur cette nouvelle, mais sur cette mémoire.
RTL Midi en direct de Toulon.
On enlève le haut. Depuis ce matin, plus de masques en extérieur. Une liberté joyeuse. Parole de démasqué avec Benjamin Boucriche.
Je me sens très très bien, c'est divin. Ça fait longtemps qu'on en avait envie. Hein. Magnifique. Et ça fait un petit moment que je commençais à oublier beaucoup.
Hein. On a l'impression d'avoir oublié quelque chose. C'est-à-dire comme s'il nous manquait une chaussure, comme s'il y avait vraiment quelque chose d'important en moi. Quoi.
C'est un bol d'air en fait. Je respire mieux parce qu'avec le masque, vraiment, c'est vraiment pas évident. Surtout avec ce temps de canicule là.
Je me sens libre. Libre. Ça fait du bien. On respire différemment. Et puis on dit c'est l'espoir qui revient.
Et puis là, je peux voir votre joli sourire.
Ben voilà, et je vous retourne le compliment.
Mais pour que cette liberté perdure, il faut arriver à l'immunité collective. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé ce matin un appel solennel pour que les soignants qui travaillent en EHPAD soient vaccinés. Il menace même de rendre le vaccin obligatoire. Emmanuel Macron, lui, est sorti masqué dans la foule pour la 3e étape de son Tour de France, la première après la gifle. Il est à Poix, dans la Somme, sur les terres de Xavier Bertrand, à 3 jours du premier tour des élections régionales. Franck Hanson.
Oui, et entre la mairie et l'école ici, il n'a pas boudé son plaisir de discuter avec les habitants de Poix-de-Picardie. Le président Macron, avec son masque blanc, entouré par un service de sécurité encore plus renforcé, plutôt détendu en cette période de relâchement.
Comment ça va? Tout va bien?
Oui.
Vous allez vous faire vacciner ou pas?
Non.
Vous savez pas encore?
Bonjour monsieur, vous allez bien?
Oui, ça va, merci.
Une petite photo, s'il vous plaît.
Bien sûr, madame.
Dans cette commune picarde, le cortège présidentiel s'est arrêté devant les panneaux électoraux et notamment ceux de Xavier Bertrand, le président de région. Mais Emmanuel Macron l'assure, lui, il n'est pas en campagne.
Je suis au travail. On gère la crise sanitaire avec beaucoup de précautions. Je le dis, on a pris des décisions hier qui vont permettre de passer une nouvelle étape. Là, on va prendre aujourd'hui une grande initiative pour la lecture à voix haute dans les écoles. Et comme ça ne vous échappe pas, je ne touche rien des sujets qui sont régionaux. Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes.
Un président qui a échangé aussi longuement avec cette aide-soignante, l'occasion encore de défendre sa politique.
J'ai eu l'augmentation, ce qui était bien, le Ségur, on remercie. De l'autre côté, j'ai 3 enfants, on nous a retiré toutes les aides qu'on avait, les aides de l'État, je parle.
Là où je partage totalement ce que vous dites, les personnes qui travaillent, il faut les aider à gagner et vivre dignement leur vie.
Et la visite se poursuit toujours en ce moment même dans l'école de sa grand-mère Manette. L'occasion pour le président Macron d'échanger avec des parents d'élèves et des enfants encore masqués avant d'aller cet après-midi sur les terres du Rassemblement National.
Et Xavier Bertrand, lui, ironise la fin du port du masque en extérieur et selon lui, un cadeau fait à quelques jours du premier tour. Duel à distance avec Marine Le Pen qui a choisi, elle, la région PACA, celle que le Rassemblement National a le plus de chances d'emporter. Vous l'avez suivi ce matin, Marie Mollet, non loin d'ici, à Sifour-les-Plages, dans le Var, en terrain conquis.
Oui, Marine Le Pen, ambiance photo de vacances devant les canots de pêche colorés du port. La patronne du RN qui tracte en personne pour son candidat entre les stands d'Encornet Farcy.
Je vous laisse un petit document un dimanche. Oh, venez, je vous le laisse, je suis à dimanche.
Accueilli ici en pop star dans les travées du marché.
Bonjour Marine. Je l'aime bien, en plus je la trouve jolie, plus jolie qu'à la télé.
Marine Le Pen qui n'a pas été très loquace ce matin, mis à part un coup de griffe à Renaud Muselier.
La région est sous la direction de M. Muselier, le bonnet d'âne, quasiment des régions françaises. Thierry Mariani va offrir l'excellence à cette région.
À Sifour, les électeurs veulent croire que cette fois-ci, la victoire est à portée de main.
On a tout essayé, le Rassemblement National. Pourquoi ça se passerait pas en PACA ?
Les cadres du RN le jurent, le pataquès Muselier En Marche peut permettre de faire la bascule. Le maire de Fréjus, David Racheline.
Les listes ont été faites à l'Élysée avec M. Castex. Je pense pas que les électeurs d'LR apprécient ce style de compromission. C'est ce pourquoi d'ailleurs ils se tournent massivement vers nous aujourd'hui et je les comprends.
Et les cadres le disent, gagner PACA c'est la victoire rêvée pour mettre la campagne présidentielle sur orbite.
Marie Mollet, d'après le dernier sondage BVA pour RTL et Orange, le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani, est le mieux placé, 42% d'intention de vote au premier tour, loin devant son rival Renaud Muselier à 32%. Jean-Laurent Félizia du Rassemblement écologique et social est à 16%. Au Palais de justice de Paris, c'est d'une autre campagne dont il est question, celle de Nicolas Sarkozy en 2012 et de ce plafond de dépenses qui a explosé. La procureure a fait un réquisitoire au vitriol ce matin, dénonçant une fraude massive. Cindy Hubert, l'important c'était de gagner à tout prix.
Oui, la procureure commence par planter le décor dantesque d'une campagne qui s'affole. Rien n'était assez beau, rien n'était assez grand. On fait venir de métropole des parapluies pour les 10 000 personnes d'un meeting à La Réunion. On déploie une grue vidéo, on construit des gradins bleu, blanc, rouge. Il faut faire gagner le champion, alors on piétine les règles. Des dépenses complètement erratiques, de faux devis signés des mois après. Des centaines de preuves détruites, rien ou presque n'a été retrouvé malgré 36 perquisitions. La procureure prend un malin plaisir à rappeler ce qu'en a dit la directrice des ressources de l'UMP. Je ne dirais pas que ces documents ont disparu, je dirais qu'ils n'ont pas été retrouvés. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a ordonné cette fraude. 10 prévenus sur 14 n'ont rien vu, rien su. Tout le monde ment et personne ne s'accorde sur rien, ironise la procureure. Qui, quand, comment ? Alors je suis magistrate, pas romancière. Je ne vais pas combler les trous noirs, mais c'est bien une responsabilité collective que vous allez juger. Il reste encore 3 heures de réquisitoire et on devrait connaître les peines demandées dans l'après-midi.
Cindy Hubert en direct du Palais de justice de Paris. Nous sommes toujours, nous, à Toulon, du côté du port. La mer est à quelques mètres seulement et dans un instant, on philosophe sur le bac.
Christelle Robière, RTL Midi en direct de Toulon. Christelle Robière, RTL Midi en direct de Toulon.
Sommes-nous responsables de l'avenir ? Savoir, est-ce ne rien croire ? Ce sont quelques-uns des sujets du bac philo ce matin qui concernent un peu plus de 500 000 candidats. Mais que ces thèmes les aient inspirés ou pas, de toute façon, c'est la meilleure note entre celle-là et celle du contrôle continu qui sera retenue. Réaction à chaud au lycée Chaptal à Paris.
Alors, j'étais pas très inspiré. J'ai pris l'explication de texte. J'ai un peu paraphrasé, mais c'était intéressant, c'était sur la morale.
J'ai commencé le texte et ça a duré 1h15 jusqu'à ce que je me rende compte que je disais n'importe quoi et après j'ai fait l'autre. J'ai fait une question. est-ce qu'il faut qu'on protège l'avenir? Si c'est ça, bien sûr que si c'est ça.
Est-ce qu'on est responsable de l'avenir?
Ah mais responsable et protégé, c'est pareil.
Et vous avez choisi quoi?
Discuter, se renoncer à la violence. Voilà.
En plus, c'était un peu relié avec l'actualité.
Et alors avec les notions philosophiques, lesquelles?
Moi, j'ai mis le langage et l'État, le contrat social, les conventions, tout ça. Enfin bref.
Vu qu'en fait, Monsieur Blanquer, il avait annoncé déjà que on pouvait choisir nos notes de contrôle continu, ce qui a permis de nous détendre un peu plus, pas forcément d'y aller totalement au talent non plus, mais d'être un peu moins stressé par cette épreuve.
Alors, fallait-il maintenir cette épreuve de philo? C'est la question du jour sur RTL.fr, sur laquelle vous allez revenir dans quelques minutes avec les auditeurs au 3210, Pascal Praud.
Et la réponse, à mon sens, est oui. D'abord, c'est une tradition, c'est la mémoire commune, c'est un symbole, et c'est bien de s'inscrire dans cette lignée. C'est bien d'avoir parfois les mêmes souvenirs que ses parents, pour tout vous dire. Ensuite, parce que ça apprend l'exigence d'être présent le jour J. L'examen, c'est l'antichambre du premier rendez-vous pour décrocher un job. Faut être bon ce jour-là. Bien sûr, la peur, l'anxiété, le stress, mais c'est la vie. Et l'épreuve de philo maintenue, eh bien, c'est l'apprentissage de la vie, Christelle.
Et on retrouve Marie Guerrier qui est près de vous, qui a suivi cette épreuve ce matin. C'est le seul exercice écrit de ce bac 2021, Marie. C'est pour ça qu'il fallait le maintenir?
Oui, voilà, ça c'était vraiment l'idée forte au ministère. Il faut rappeler que la réforme qui s'applique à partir de cette année a réduit à seulement 2 le nombre d'épreuves du bac passées en juin. L'écrit de philo donc et le grand oral. Les élèves auraient dû passer également en mars des épreuves écrites sur leurs 2 spécialités. Mais à cause de l'épidémie, elles ont été annulées. Et ces élèves de terminale de cette année, ce sont ceux qui, l'an dernier, n'ont pas passé le français à cause également de l'épidémie. Donc le ministère a voulu maintenir au moins l'écrit de philo, qui est la seule épreuve écrite du bac 2021. La seule fois où les candidats ont pu se confronter à un examen écrit national, formel, officiel. Le dernier, bah, ça remontait à la classe de 3e pour le brevet. Alors c'est pas inutile non plus de se mettre en condition pour poursuivre ensuite l'année prochaine des études supérieures.
Et vous pouvez nous donner votre avis, bien sûr, en nous appelant au 3210. Garde à vue prolongée à Gaillac. Ça fait plus de 24 heures maintenant que le mari de Delphine Jubilard, disparu mystérieusement il y a 6 mois pile, est entendu avec sa mère et le mari de cette dernière. Ils sont interrogés sur leurs incohérences, Patrick Tégéraud.
Oui, le parquet a confirmé tout à l'heure la prolongation des 3 gardes à vue. Cela signifie que les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour confirmer leur premier soupçon sur le mari de la disparue. Mais en interpellant sa mère et son compagnon, ils envisagent aussi leur complicité, active ou passive. Leur garde à vue, c'est également un moyen de pression psychologique. Enquêteurs et magistrats tentent un coup, car malgré 6 mois d'enquête acharnée, il semble qu'il n'ait pas recueilli de preuves flagrantes de la culpabilité de Cédric Jubilard. Mais cette enquête pointille a permis de fermer toutes les autres pistes. Celles d'un rôdeur, d'un amant, d'un soir, d'un soupirant éconduit. Toutes ces pistes sont désormais fermées. Il ne reste donc plus que lui, le mari. Et cette longue enquête a aussi permis de cerner le profil complexe de ce coupable idéal. Cédric a été décrit comme colérique, instable, ne supportant pas l'idée du divorce et de la perte de ses enfants. Surtout, il savait aussi, pour la nouvelle vie, que Delphine était en train de se construire. Un mobile possible ? Désormais, les enquêteurs sont en quête d'un remords ou d'un aveu.
Patrick Tégéraud en direct de Gaillac pour RTL. Le rappeur Moa Lasquale, mis en examen pour agression sexuelle et violence sur ses ex-compagnes. Il conteste les faits, dénonce un complot. Il fait l'objet de 6 plaintes. RTL Midi, toujours en direct de Toulon. Et dans un instant, nous verrons comment on essaie ici de sauver les jeunes des quartiers.
RTL Midi, en direct de Toulon. Christelle Robière, RTL Midi, en direct de Toulon.
L'insécurité est le thème prioritaire de la campagne ici en PACA, même si les régions n'ont que très peu de pouvoir dans ce domaine. Mais faisons le point. À Toulon, qui compte 170 000 habitants, la violence liée au trafic de drogue a explosé depuis 5 ans. Pour lutter contre ce fléau qui gangrène les quartiers, il est question ici de simplifier les procédures d'expulsion visant les locataires de HLM condamnés pour trafic de drogue. Un accord a même été signé il y a 1 mois, Hugo Hamelin.
Oui, absolument. Une convention entre le procureur de la République et l'office HLM. L'idée, c'est d'obtenir du parquet un listing mis à jour régulièrement de locataires dealers ou qui dégradent les parties communes. Écoutez les précisions de Mohamed Mahali, c'est le directeur de Toulon Habitat, le plus important bailleur social de la ville.
C'est pas parce que la personne
aura été condamné au pénal, que forcément le bail sera résilié de facto. Il va falloir que l'office HLM diligente une procédure devant le juge judiciaire, le juge civil, pour obtenir la résiliation. On va se servir de ce jugement-là pour après, de l'autre côté, aller sur l'autre tribunal et cette fois-ci demander l'expulsion de ce locataire. Pour l'instant, c'est un essai. Et si l'essai est concluant, le but, c'est de l'étendre après sur tout le territoire.
Alors, c'est un essai, c'est aussi une promesse politique fréquemment évoquée, mais son application a bien du mal à trouver un cadre légal. En 2017, le Conseil constitutionnel avait retoqué une proposition de loi prévoyant des expulsions simplifiées en cas de condamnation pour trafic. La preuve, ici à Toulon, cette L'accord a été signé il y a plus d'un mois et aujourd'hui, aucune procédure n'a encore été lancée.
Merci Hugo. Alors l'été dernier à Toulon, on a assisté à plusieurs fusillades. Lors d'un règlement de compte, un homme a même été tué au volant de sa voiture devant sa compagne et ses enfants. Alors comment sauver les jeunes des quartiers et pas seulement ? Bonjour Laurence Lanata.
Bonjour.
Et merci de nous avoir rejoints dans notre studio mobile. Vous êtes directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse dans le Var. La semaine dernière, une adolescente de 13 ans a été arrêtée en train de vendre du shit. Est-ce que les jeunes filles sont de plus en plus vulnérables ?
Alors sur la vulnérabilité des jeunes filles, je ne crois pas qu'il y ait une évolution particulière. Je pense que c'est davantage les jeunes, et notamment les plus jeunes, qui peuvent effectivement se retrouver dans des trafics et dans des réseaux utilisés par les majeurs. Et c'est en ça que nous sommes en train de travailler une réforme de la justice pénale des mineurs pour avoir une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace envers les jeunes.
Ouais, on va y venir. Vous disiez les jeunes de plus en plus jeunes, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que nous pouvons avoir, même si la majorité pénale est toujours à l'âge de 13 ans, des jeunes de 12, 13, 14 ans. Que nous rencontrons malheureusement autour de trafic de réseaux de stupéfiants.
Ils sont de plus en plus jeunes, ce sont des jeunes des quartiers, mais pas seulement.
Alors pas seulement, en effet, je pense que toutes les familles varoises ou toulonnaises peuvent être confrontées à la question des addictions. Donc la protection judiciaire de la jeunesse mène un énorme travail depuis 2015 sur la question des addictions et notamment avec les parquets pour mettre en place des stages de sensibilisation aux produits stupéfiants. Et c'est vraiment une mesure, on a environ 250 mesures par an que nous exerçons auprès des plus jeunes pour les sensibiliser avec des éducateurs et des associations spécialisées sur les addictions.
Et ça marche, puisque ça, alors, vous ça parlez marche. Depuis 2015, vous avez déjà des résultats.
Oui,
ou c'est encore difficile.
Alors, on peut observer que ce qui est encore difficile, c'est l'appât du gain, puisque évidemment, les jeunes sont souvent confrontés à des promesses, hein, mais se retrouvent aussi parfois dans des situations qu'on pourrait presque qualifier avec les éducateurs de traite humaine, puisqu'on voit des jeunes qui sont violentés quand ils refusent ensuite de retourner participer au réseau. En revanche, sur les stages de sensibilisation, on commence à avoir des chiffres, en effet, notamment au niveau national. Il s'agit environ de 65% de jeunes qui auront une affaire liée au stup pendant leur minorité qu'on ne reverra pas.
Est-ce que vous avez des relais dans les quartiers ?
Nous avons beaucoup de relais dans les quartiers. D'abord, nous avons 95% de nos éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui vont à domicile, qui sont vraiment ce qu'on appelle les éducateurs de milieu ouvert, qui travaillent avec les familles, avec les associations de prévention. Hier, j'étais en préfecture où nous préparions avec l'éducation nationale, la caisse d'allocation familiale et monsieur le préfet, les quartiers d'été, les vacances apprenantes, pour essayer d'intervenir et de faire de la prévention, bien sûr.
Alors, on y vient. La justice est mise en accusation depuis plusieurs semaines, accusé de lenteur, de laxisme. Le code de la justice pénale des mineurs qui doit entrer en vigueur en septembre, que va-t-il changer ? Qu'est-ce que vous en espérez-vous ?
Alors le code de justice pénale des mineurs va apporter plus de lisibilité et plus de réactivité, notamment aux victimes, puisque jusqu'à
présent... Oui,
c'est
le reproche qu'on fait souvent à la justice, c'est-à-dire finalement ces mineurs, après on les retrouve, alors, et puis on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, que la justice n'a pas fait son travail.
Alors moi je suis très contente que vous m'ayez invité pour parler de la protection judiciaire de la jeunesse, dans la mesure où non. Toutes les infractions pénales des mineurs sont bien prises en compte et par les parquets mineurs et par les juges des enfants, qu'on apporte des réponses. Le code de justice pénale des mineurs a cette particularité qui va réduire les délais de procédure. C'est-à-dire que le jeune qui commet une infraction rencontrera le juge des enfants au bout de 3 mois maximum.
Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt un an et demi.
Alors non, les mises en examen étaient de 3 à 6 mois, mais en revanche, les jugements, effectivement, vous avez raison, étaient environ à 18 mois. Maintenant, la procédure prévoit que le jeune sera jugé au bout d'1 an. Mmh. Avec aussi la particularité, je trouve ça très intéressant, de redonner une place à la victime, puisqu'à l'examen de culpabilité au bout de 3 mois. la victime sera reconnue victime et pourra engager des procédures, même si le temps de la peine et de la sanction pour le mineur, avec l'examen de personnalité et l'évolution de la personnalité, est différé au jugement un an après.
Merci, merci beaucoup Laurence Sanata d'être venue jusqu'à nous pour cette émission spéciale.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et le coup de cœur nous emmène le long de la Loire. L'aventurier Rémi Camus, qui s'était fait connaître en descendant le Mékong dans l'émission Wild sur M6, descend la Loire en ce moment avec deux amis entre Nevers et Orléans. Une expédition écolo, Christian Panvert.
Le radeau de 8 mètres carrés, démontable, est constitué de trois modules avec des bidons de 220 litres qui font office de flotteurs. Nos trois aventuriers rameurs, comme Valentin Lame, récupèrent les déchets.
Ça va principalement être des déchets plastiques qui flottent, par exemple des bouteilles en plastique, des morceaux de plastique qui vont se coincer dans les branchages sur les côtés. On a aussi trouvé un pneu, par exemple, qui était sur le bord, des plaques de métal très très rouillées, donc qui doivent être là depuis très très longtemps. Donc voilà, on a tout ça sur notre radeau.
Ils ne peuvent bien sûr pas transporter tous les détritus, alors ils les signalent sur une application Trash Spotter. Rémi Camus.
Trash donc pour les déchets et spotter pour spotter et géolocaliser. On voit une décharge de déchets, on va simplement la géolocaliser, ce qui permet à l'application d'avoir une grande quantité de data et pouvoir communiquer avec les associations localement implantées pour qu'elles puissent, elles également de leur côté, faire des nettoyages.
Des membres d'associations environnementales qui les suivent sur les réseaux sociaux viennent à leur rencontre tous les jours. C'est le cas d'Anaëlle, elle est passée les voir à Gien.
Quand je les vois faire ça, je me dis mais c'est trop bien. Il y a énormément de personnes concernées par cette problématique. On n'est pas là à attendre que ça vienne d'ailleurs. On le fait. Et c'est ça qui est bon.
Parti de la Nièvre le 8 juin, le trio terminera son périple par Orléans ce week-end.
Reportage Christian Panvert avec les petits oiseaux. Pascal Pro, il y avait un bon sujet de philo pour vous ce matin. Discuter, est-ce renoncer à la violence? Vous avez une heure et demie.
Ah bah écoutez, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Une heure et demie avec les auditeurs. Mais vous savez que j'étais dans la rue ce matin et vous savez ce que j'ai vu?
Des gens qui mettaient plus le masque.
Non, j'ai vu des visages. Et alors, il y en a des ouverts, des fermés, des pensifs, des renfrognés, des rigolos, des distingués, des abîmés, des barbus, des maquillés, des boutonneux, des ensoleillés, des blafards, des romantiques, des magnifiques, des énergiques. J'ai vu plein de visages. Et ben, j'étais drôlement content.
Et ben, vous n'avez pas vu mon sourire aujourd'hui.
Bah, je l'ai regretté.
Mais j'espère. Hein. Allez, on retrouve Peggy Broche. 17 départements, à tout de suite, sont encore en vigilance orange aux orages. Soyez prudents.
Oui, exactement, Christelle. Et pour certains, en plus, pluie, inondation. Et puis, je rappelle que le Rhône est en vigilance orange canicule. Alors, les orages concernent encore l'ouest du pays, des Pyrénées en remontant vers, au fil des heures, vers les Pays de la Loire, la région parisienne en fin d'après-midi, début de soirée, jusqu'à la frontière belge. Prudence, ces orages peuvent être violents avec de fortes rafales de vent accompagnées de grêles, des rafales jusqu'à 100 km/h localement possible. Et puis, ça reste bien nuageux sur les côtes de la Manche avec quelques petites averses. Et sur l'est, encore du beau temps et de la chaleur, juste une petite averse encore sur les reliefs. Du vent également près de la Méditerranée, jusqu'à 80 km/h en rafale pour le vent d'OTAN. Tout ça sous des températures très contrastées, en nette baisse à l'ouest et très élevées à l'est, de 18 à Brest à 35 à Grenoble. Hier, il faisait encore 31 degrés à Biarritz. Il n'en fera plus que 22 cet après-midi, 25 à Nantes, 26 à Tours, 29 à Toulouse et Lille, 31 à Paris, 33 à Marseille et 34 à Mulhouse.
Et 28 ici à Toulon où la chaleur est assez étouffante. Merci Peggy. À suivre le rappel des titres sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Il n'y a plus d'obligation de porter le masque à l'extérieur, comme vous le savez depuis hier. Romain est médecin, il est avec nous. Bonjour Romain.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure?
Dans les conditions actuelles, oui.
Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi. Christelle, en direct de Toulon.
Oui, sommes-nous responsables de l'avenir? C'est l'un des sujets de philo du bac, la seule épreuve écrite cette année. Et seule la meilleure note, soit de l'écrit, soit du contrôle continu, sera retenue. Certains dénoncent un bac factice. Duel à distance à 3 jours du premier tour des élections régionales. Emmanuel Macron est dans la Somme, sur les terres de Xavier Bertrand, pour parler culture et éducation. Marine Le Pen à Sifour-les-Plages, dans cette région PACA, que le Rassemblement national a de bonnes chances d'emporter. bat les masques. Il n'est plus obligatoire en extérieur à partir d'aujourd'hui, mais il faut accélérer la vaccination. Olivier Véran, le ministre de la Santé, demande aux soignants dans les EHPAD de se faire vacciner et il les menace d'obligation. Garde à vue prolongée dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn. 6 mois après, le mari de la jeune infirmière est toujours entendu avec sa mère et le compagnon de celle-ci. L'état d'urgence sera levé dimanche à Tokyo, à 1 mois avant les Jeux Olympiques, mais il devrait encore y avoir des restrictions pour limiter la présence du public local.
Les auditeurs ont la parole.